Bonsoir Cédric, on reçoit Isabelle Sommier.
Oui, donc on a le grand plaisir de recevoir Isabelle aujourd'hui et bonsoir. On la remercie beaucoup d'ailleurs parce qu'elle est un peu malade et elle nous fait le plaisir de venir. Isabelle Sommier donc est professeure en sciences politiques à la Sorbonne, pas moi.
Et c'est maître de conférence.
Ah oui, c'est vrai.
Respectons la hiérarchie.
Si on veut. Et puis, donc, elle est spécialiste des mouvements de contestation, en particulier des années 60-70, mais elle a également publié sur les mouvements de contestation plus contemporains, pardon, notamment sur l'altermondialisme depuis quelques années. On la reçoit parce qu'elle vient de publier aux éditions Sciences Po un petit livre qui s'intitule « La violence révolutionnaire » où elle reprend une partie de ses travaux antérieurs sur donc la violence portée par des groupes contestataires et travaux qui avaient porté notamment sur l'Italie et la France où elle élargit également à d'autres pays, notamment l'Allemagne et le Japon.
Alors pour les États-Unis.
Et les États-Unis, pardon. Que j'avais déjà oublié tout à l'heure. Alors peut-être pour débuter, on a envie de te poser une question, mais quand on lit ce livre, on est un peu surpris par la violence dont tu parles, et donc qu'on connaît assez mal, dans le fond, on a beaucoup entendu parler de mai 68, on a un petit peu entendu parler des mouvements qui ont été qualifiés de terroristes, mais on n'a pas toujours vu le lien. Quelle est donc cette thèse que tu voulais porter ici en présentant un bouquin sur la violence, et en particulier sur cette violence des années 70, et comment...
Bah oui, effectivement, parce qu'il y a un enjeu qui est à la fois historiographique, idéologique et politique qui est intense. Hein, sur, on parle de quoi quand on parle de 68 ? On parle de mai 68, hein, et souvent quand on parle de mai 68, on parle en fait d'une révolte d'étudiants parisiens du quartier latin, en gros. Hein, et puis alors on occulte complètement... la révolte ouvrière, les aspirations à l'égalité. Hein, alors souvent, on a cette lecture-là. Et puis, tout ce qui est après 68, enfin, ou après 68, à partir finalement de septembre 68, on l'occulte. Et on l'occulte pourquoi ? Eh bien parce que à l'issue effectivement de ce mois, enfin pour la France, c'est ce mois-là, mais enfin pour les autres... pays, c'est autour de ces mois-là, eh bien, il y a des surgeons révolutionnaires qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de l'espérance qui est de l'époque, hein, qui est le modèle insurrectionnel et qui vont déboucher sur une radicalisation de la violence, y compris jusqu'à éventuellement la violence armée. Et il y a un très gros enjeu idéologique. Hein, et historiographique autour de cette affaire, parce que si on sépare mai 68, pour aller vite, hein, des années 68, on dit en gros que mai 68, comme c'est en fait l'histoire officielle racontée par les anciens 68ards, et en particulier les anciens Mao, bah, c'était un mai sympathique, etc. Et puis après, il y a eu ceux qui ont dévoyé l'esprit de mai, entre guillemets, hein, et qui ont été jusqu'à la violence révolutionnaire, jusqu'au terrorisme, et puis avec le terrorisme, bien entre guillemets, et bien ils ont été au bord du stalinisme. Et donc il y a un enjeu à la fois historiographique sur on considère de quoi mai 68 ou les années 68 considérées comme la résurgence de l'espérance révolutionnaire et puis le développement des mouvements sociaux dans toutes les sphères et pas simplement dans la sphère universitaire. Hein. Ça, c'est l'aspect historiographique. Il y a l'aspect politique de séparer le joyeux et le joli mois de mai des terribles années 70. Et là, il y a l'aspect politique. Est-ce que 68 a... une quelconque affaire avec le développement et la radicalisation de certains groupes révolutionnaires. Moi, je pense que oui.
Et ça tient aussi peut-être au fait qu'il y a peu de forces politiques aujourd'hui qui sont prêtes à assumer ce passé-là en particulier, donc ce passé de violence.
Il n'y en a pas. Le fait est qu'il n'y en a pas, hein. Encore que du côté, quand même, du côté des trotskistes, enfin des trotskistes de la SR, hein, parce que lutte ouvrière et puis les lambertistes n'ont rien eu à faire avec mai 68, hein. Pour eux c'était vraiment une révolte petite bourgeoise, hein. Du côté de la SR, il y a une petite réflexion quand même, hein, sur finalement jusqu'aux événements de la mutualité où finalement la LCR se mobilise et se prépare psychologiquement, logistiquement à un combat physique avec les militants d'extrême droite.
Là, il y a une petite réflexion. On peut peut-être rappeler en deux mots ce qu'a été cet incident.
En fait, il y en a eu deux. Hein. Il y en a eu en 71 et en 73. Hein. Et les deux ont abouti à la mise à l'interdit hein, des trotskistes de la SCR, hein, au cours duquel la SCR décide, et le dernier épisode, c'est 73, décide de résister physiquement et donc de se préparer logistiquement hein, à combattre la réunion à la mutualité qui était officielle hein, de militants d'extrême droite. Voilà. Et à l'occasion de cet événement, eh bien, il y a une véritable bataille rangée entre extrême droite et extrême gauche, hein, parce que c'est un élément là aussi qui souvent est occulté, hein, c'est que l'un des facteurs de la montée en puissance et de la radicalisation des groupes d'extrême gauche réside dans le fait de la virulence des groupes d'extrême droite. Un des éléments explicatifs de la radicalisation italienne est là. Hein, dans le fait que l'extrême droite est extrêmement présente et extrêmement virulente. Et donc la LCR, enfin la JCR à l'époque, hein, se prépare, il y a une bataille rangée, les forces de l'ordre en quelque sorte protègent l'extrême droite, et puis tout cela va amener à des scènes de guérilla urbaine au cours duquel, enfin à l'issue duquel, la JCR va être interdite. Et à partir de ce moment-là, eh bien, dans la SCR, hein, la ligne dite militariste représentée par le service d'ordre, hein, Romain Goupil, hein, Recanati, mis en scène par Romain Goupil dans Mourir à 30 ans, eh bien, va être en quelque sorte mis en minorité par la ligne ouvriériste, hein, décidant que l'objectif, c'est d'abord de s'enraciner dans les usines et non plus d'aller faire le coup de poing dans la rue.
Alors peut-être pour, avant de venir plus en détail sur cette procédure de radicalisation, on peut se poser la question, quel est donc le contexte qui a permis l'émergence de ces groupes violents? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, par contraste, que la période n'est pas du tout propice, on peut le dire comme ça, à l'émergence de tels groupes. En revanche, à l'époque, il y a peut-être un contexte des années 60 qui sinon explique et peut-être détermine en partie la piste suivie par une partie des militants.
Je dirais pas que la période n'est pas propice aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, elle est beaucoup plus désespérante et donc beaucoup plus propice à une explosion que ça n'était le cas dans les années 60. Hein. Mais effectivement, il n'y a pas, les préalables pour une collectivisation, si je puis dire, de la contestation. Alors, dans les années 60, il y a plusieurs éléments et qui se retrouvent partout, hein. Enfin, en tout cas en Occident, hein, et puis aussi au Japon. Hein. Il y a d'abord une radicalisation très forte de la jeunesse, hein. De la jeunesse scolarisée d'abord, et en partie de la jeunesse ouvrière dans certains pays, et c'est ce qui fera la différence en quelque sorte avec en Italie, hein, où la jeunesse scolarisée va pouvoir rencontrer une partie de la classe ouvrière marquée par son côté jeune, quoi. Enfin, peut-être qu'on y reviendra. Donc il y a la radicalisation de la jeunesse, il y a un anti-autoritarisme diffus contre l'ensemble des institutions. Alors évidemment l'université, hein, mais aussi l'environnement familial, hein, que ce soit en France ou en Italie, hein, l'un des premiers symptômes, si je puis dire, hein, de la révolte qui couve, hein, c'est le fait que les jeunes réclament à discuter et à discuter de la sexualité, à remettre en cause les carcans qui leur sont imposés. Hein. Il y a une scène très connue en France qui est celle où Cohn-Bendit interpelle Missoff, qui est alors le ministre de la jeunesse, hein, qui inaugure une piscine à Nanterre, et puis Cohn-Bendit lui demande « Oui, mais vous n'avez pas parlé des problèmes sexuels de la jeunesse ?» Et puis Missoff lui répond de façon très hautaine « Bah ouais, si vous avez, en gros, hein, enfin, ce n'était pas tout à fait les termes, enfin bon, le sens était celui-là, si vous avez des chaleurs, eh bien, plongez-vous dans la piscine, quoi. » Et en Italie, on retrouve la même chose, hein, c'est-à-dire un journal lycéen à Milan qui aborde les problèmes, donc, enfin, les problèmes... les revendications hein, sexuelles de la jeunesse et qui, ces lycéens vont aussi être mis à l'écart hein, du lycée. Donc il y a ça hein, et il y a un contexte international qui est tout à fait particulier, hein, qui est marqué par la réactivation du mythe révolutionnaire. Il y a Cuba, bien évidemment, il y a la Chine contre l'Union soviétique, il y a le Vietnam qui joue un rôle tout à fait considérable. Pour la France, il y a aussi le souvenir de la guerre d'Algérie, parce que quand on parle d'une génération 68, c'est faux. Il y a plusieurs générations 68. Et la première génération 68, ceux qui, dont on parle maintenant souvent, les leaders, hein, Gesmar, Krivine, etc., leur baptême politique, en quelque sorte, c'est pas 68, hein, c'est la lutte contre la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis un troisième élément, c'est la crise que l'on retrouve partout, hein, la crise des organisations traditionnelles de gauche, hein, à la fois les jeunesses communistes et plus encore les jeunes des syndicats étudiants d'obédience communiste. Et en fait, tous les groupes d'extrême gauche incubent au sein et en opposition avec la ligne conformiste, orthodoxe des rangs syndicaux d'obédience communiste.
C'est le cas aussi pour les États-Unis, par exemple ?
Alors, pour les États-Unis, c'est un peu différent quand même, hein, parce que très certainement, l'influence marxiste est moindre. Hein, mais en même temps, les groupes comme, qui vont prendre les armes hein, en 69, comme le Women Underground Organization, incubent effectivement, naissent au sein de l'organisation de jeunesse, le SDS, qui est en opposition avec, qui considère que les démocrates ne vont pas assez loin, ni dans la dénonciation de la guerre, ni dans la remise en cause de l'American Way of Life.
Et justement, on voit qu'il y a quand même un temps entre ce mai 68, ou ces moments dès mai 68, et le passage vers la violence révolutionnaire ou de terrorisme. On pourrait même expliciter un peu ce qu'on met derrière ces termes-là, mais il y a des expériences qui font qu'on en arrive à ça. Il n'y a pas un basculement direct ?
Non, il n'y a jamais un basculement direct. D'ailleurs, ceux qui, et notamment des chercheurs hein, qui parlent en termes de basculement, à mon avis, c'est totalement faux. En interrogeant les gens qui progressivement sont passés à une expérience armée, eh bien, qu'est-ce qu'on le remarque ? C'est qu'ils ont beaucoup de mal à dire bah voilà, ce jour-là ou même cette année, j'ai décidé de passer à l'acte. Ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est des effets de seuil, en quelque sorte, qui fait que progressivement, eh bien, dans la radicalisation révolutionnaire, qui n'a rien à voir avec les modes d'action au départ, hein, parce que pour prendre un exemple assez connu maintenant, je crois, hein, les modes d'action des Brigades Rouges, dans un premier temps, ne diffèrent absolument pas des modes d'action de lotta continua, de potere operaio, c'est-à-dire d'organisation légale. Hein. Les uns et les autres, vont faire de l'antifascisme militant actif, c'est-à-dire vont tabasser des militants fascistes. Les uns et les autres vont brûler la voiture d'un petit chef particulièrement haï d'une entreprise du nord de l'Italie. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc la différence, elle s'établit véritablement par effet de seuil, par le fait que certains militants, pour des raisons souvent qui sont liées à des amitiés. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui est poursuivi par la police et vous l'aurez... vous l'accueillez pour lui offrir une couverture, bah, tout d'un coup, il se trouve dans l'illégalité, où il y a des formes d'action qui progressivement dépassent ce qui est accepté à ce moment-là. Parce que au début des années 70, les modes d'action violents sont en grande partie, je dirais pas acceptés, mais tellement courants, en tout cas en Italie, que bon, à la limite, ça ne fait pas vraiment de différence entre une organisation dite légale et une organisation qui plus tard sera labellisée comme terroriste. Donc il y a vraiment une évolution qui fait aussi, hein, et il faut voir avec les réactions des États, hein, qu'à un moment donné, des militants se retrouvent face à une accumulation de choix qui fait que le retour en arrière n'est plus possible parce que c'est pas pareil, par exemple, en France, où Gessmar a été soi-disant l'ennemi public numéro un, mais il était menacé de 18 mois de prison. C'est pas pareil que quelqu'un qui, parce qu'il a simplement diffusé un tract appelant à la révolution, ce qui était somme toute assez courant à cette époque-là, est menacé de 5 ans de prison, vous voyez.
Oui, Charles. Je peux parler.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in the coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Allez, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front, et on reçoit donc ce soir Isabelle Sommier qui vient de publier La Violence Révolutionnaire aux éditions de Sciences Politiques. Guillaume.
Oui, on parlait du passage à l'acte des militants. Je m'interrogeais sur est-ce qu'il y a une influence des théories révolutionnaires, de l'héritage à la fois, je sais pas, de quelqu'un comme Sorel ou des anarchistes des années 20, et est-ce que au sein de ces organisations radicales d'extrême gauche il y a une formation qui est mise en place pour justement rentrer dans la phase violente. Est-ce que, par exemple, aussi le service militaire a joué un rôle aussi? C'est une question que je m'interroge.
Alors la réponse est très claire, non. Voilà. Voilà, non, absolument pas, parce que à cette époque-là, alors ça peut paraître aujourd'hui à des années-lumière, mais enfin, à cette époque-là, bon, le fait que la violence soit la coucheuse de l'histoire est tellement... ça va de soi. Donc on n'a pas besoin d'expliquer, de faire l'exégèse des textes, etc. Ça fait partie, hein, je dirais, de la culture politique commune à gauche. Donc on ne trouve pas Moi aussi, ça a été une surprise pour moi. Hein. Mais on ne trouve pas de texte vraiment théorique, explicitant, justifiant le passe, d'un point de vue théorique. Hein. D'un point de vue pratique, oui. Hein. Mais d'un point de vue théorique, expliquant le passage à l'avance révolutionnaire, non, ça, ça va de soi. Hein. D'autre part, il faut dire aussi que ces groupes-là, bon, ils sont d'abord orientés vers l'action, quoi. Hein. Et puis, ils mélangent des théories de façon un peu souvent, avec le recul du temps, je n'ai pas à juger sur le moment, mais bon, avec le recul du temps et avec une certaine, je dirais, connaissance philosophique, etc., on peut se dire, c'est un maelstrom, quoi, et c'est souvent même un porridge de marxisme-léninisme pur, de maoïsme, de trotskisme, d'éléments libertaires. Il n'y a pas vraiment de consistance idéologique. Hein. D'ailleurs, quand certains disent les Brigades Rouges étaient Mao, c'est totalement faux. Ils étaient un mélange, quoi, en fait. Parce qu'en fait, la question à ce moment-là, d'une part, ça allait de soi, le fait que c'est une période révolutionnaire, ils en sont convaincus. Et la révolution passe par la violence. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête, en quelque sorte, pour distinguer. Bon. Et puis, ce qui fait le substrat de ces mouvements, c'est l'action. Donc, pourquoi est-ce qu'ils aiment beaucoup Guevara? Pourquoi est-ce qu'ils aiment beaucoup Mao, etc.? Parce que, pas pour des raisons théoriques, mais pour des raisons simplement qu'à l'époque, Guevara, les théories de la libération, Guevara et le maoïsme, enfin Mao, apparaissent comme les plus actifs contre justement la sclérose de l'Union soviétique et du stalinisme. Et puis, donc, il n'y a que l'action qui les anime, d'une certaine manière. Hein. Donc, il n'y a pas de préparation idéologique, quoi. De toute façon, tout cela va de soi. Il y a une préparation qui est une préparation, et pas encore. Pas pour tout le monde, hein. Faut pas non plus fantasmer sur les préparations militaires. Hein. Mais le fait est que, la pépinière des groupes armés, c'est les spécialistes de l'autodéfense. Hein. Donc les services d'ordre, etc. Donc là, il y a une petite préparation, une petite préparation qui va guère au-delà du fait de savoir comment réagir face à la police, face à l'extrême droite, et puis éventuellement d'avoir un minimum de connaissances sur les techniques d'autodéfense, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Hein.
Quand on évoque la question de violence révolutionnaire ou les termes de terrorisme, finalement, on peut aussi s'interroger d'abord de qu'est-ce que sont ces catégories. Est-ce que ce ne sont pas les catégories finalement presque de l'État ou de l'antiterrorisme? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que tous les groupes qui ont versé de ce côté-là ont pas entraîné la mort de, comme on a pu voir pour Aldo Moro ou Georges Besse. Et de quoi on parle, en fait, quand on parle de ces violences révolutionnaires?
Ah ben alors là aussi, c'est un très gros enjeu. Hein. C'est l'enjeu de comment on les qualifie. Hein. La qualification officielle, c'est des groupes terroristes. Moi, l'origine de ce travail, hein, ça a été... Cédric l'a dit... une thèse sur les groupes révolutionnaires en France et en Italie d'abord, hein, et puis ensuite une réflexion d'ordre généalogique sur ce qu'est le terrorisme, enfin d'où vient le terme terrorisme. Et quand on regarde le terme terrorisme, eh bien, d'une part, on remarque deux choses. D'une part, que le terme, en fait, désigne d'abord un mode de gouvernement, et non pas un mode d'action révolutionnaire. D'autre part, que c'est un terme qui est un terme péjoratif pour dénier à l'auteur qui est qualifié de terroriste une dimension politique. Ça, c'est très net d'un point de vue juridique. Hein, et c'est encore le cas aujourd'hui dans l'évaluation de la légitimité ou non de l'extradition. Hein, une extradition, alors on pourra en reparler des extraditions ou des menaces d'extradition portées contre les Italiens aujourd'hui. Hein. L'un des critères, hein, c'est, outre le fait que l'État était-il démocratique ou pas, hein, l'un des critères, c'est est-ce qu'il y a eu disproportion entre les objectifs et les moyens pour y parvenir. Et de ce point de vue-là, hein, en général, hein, ce qui permet ou pas l'extradition, hein, c'est on qualifie de terrorisme l'acte et auquel cas, effectivement, on extrade, ou on le qualifie d'infraction politique, où il n'y a pas d'opposition ou de disproportion entre les objectifs et les actes, et dans ce cas-là, on protège. Bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, hein ? Eh bien, il y a derrière ça une dépolitisation de l'action et un amalgame entre différents modes d'action. Or, il se trouve que quand on regarde plus précisément les modes d'action des groupes d'extrême gauche, hein, eh bien, on remarque deux choses. D'une part, on remarque que, à l'inverse de ce qu'une vulgate anticommuniste qui passe par Furet, qui passe par les nouveaux philosophes et qui dit en gros, bah, finalement, tout espoir révolutionnaire va déboucher sur le stalinisme, vers le totalitarisme, etc., bah, on remarque qu'il n'y a pas de corrélation entre les idéologies et les modes d'action. Je vous donne un exemple, on peut y revenir si vous voulez. Hein. J'ai examiné différents cas, hein, cas italien avec les Brigades Rouges pour l'essentiel, le cas français avec Action Directe, le cas allemand avec la fraction Armée Rouge, le cas américain avec le Wave Underground Organization, et puis le cas des Japonais. Hein. Les cinq partent des mêmes prémices, hein, c'est-à-dire révolutionnaires, classiques, marxistes, voire marxistes-léninistes, hein, et pourtant, leurs modes opératoires sont totalement différents. En gros, il y a d'un côté ceux qui restent dans un registre tout à fait logique, enfin tout à fait classique, qui est le registre de l'assassinat politique. C'est quoi le registre de l'assassinat politique ? C'est de mettre... Alors, après, on juge ou pas, enfin bon, d'un point de vue normatif, hein, mais ça... c'est qu'il y a un lien entre la culpabilité et la sanction. On tue quelqu'un parce qu'il représente le capitalisme, parce qu'il représente les forces de répression, etc. Je ne me situe pas, je suis chercheuse, si vous voulez, donc je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Mais il y a un lien entre le fait de toucher quelqu'un et le fait de toucher sa fonction. Hein. Ça, c'est ce que vont faire les Italiens. Hein. C'est ce que vont faire Action Directe. Hein. Et puis, il y a un autre registre qui est le registre des Japonais et dans une moindre mesure des Allemands, mais surtout des Japonais, le mode opératoire, c'est la violence indiscriminée, la violence aveugle. On met des bombes, on détourne un avion, etc. Et ça, c'est tout. Enfin, les modalités sont tout à fait différentes, même si à l'origine. L'idéologie est la même. L'idéologie est une idéologie révolutionnaire. Donc je pense que, à travers ce parcours, en quelque sorte, cette étude, hein, ben, c'est d'abord mettre en brèche, hein, l'idée que à une idéologie correspond une fin nécessaire. Non, il n'y a pas de fin nécessaire.
D'accord. Mais à ces différentes stratégies, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'efficacité propre à chaque groupe ? Est-ce qu'eux-mêmes ont une réflexion capable de remettre en cause la façon dont ils ciblent leur objectif ? Est-ce qu'il y a un travail de critique par rapport à leur façon de faire ?
Bah oui, évidemment. Enfin, surtout pour les groupes qui durent. Hein. Pour les groupes éphémères, ce qui n'est pas le cas. Pour les groupes éphémères, ce qui n'est pas le cas de ceux que j'ai étudiés, hein, parce que ceux que j'ai étudiés, bon, sont des groupes qui durent. Hein. Nécessairement, la question de l'efficacité de l'action se pose, hein, parce que bon, sinon c'est un peu désespérant, quoi. Bon, oui, très certainement. Hein, mais ça à voir, et je pense que justement, ce n'est pas indifférent avec les modalités d'action, hein, de la violence, ça a à voir avec le rapport qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas avec le sujet révolutionnaire qu'ils considèrent être premier. En d'autres termes, la spécificité italienne, à mon sens, tient au fait... Enfin, il y en a plusieurs, mais l'une des spécificités tient au fait que les jeunes révolutionnaires, Parce que je vais revenir à la notion de violence révolutionnaire. Je n'ai pas fini ma réponse. Les jeunes révolutionnaires qui étaient issus de la jeunesse scolarisée ont un temps réussi à rencontrer une fraction de la classe ouvrière italienne qui était une fraction qui avait deux particularités. Elle était jeune biologiquement et elle était jeune en termes de... en termes de d'expérience de classe, c'est-à-dire que là où les Brigades Rouges et d'autres organisations ont eu une prise avec les avec une fraction de la classe ouvrière, c'était chez des jeunes ouvriers, jeunes biologiquement, mais aussi jeunes socialement, dans le sens où ils venaient du Mezzogiorno, du Midi italien, souvent de l'exode rural, sans expérience de lutte syndicale, et puis avec une rage, mais une rage que l'on peut comprendre, vu les conditions qui leur étaient faites, où ils arrivaient dans le nord de l'Italie, à la fois en découvrant l'enfer de l'usine, parce que c'est un enfer l'usine à ce moment, enfin, encore maintenant, mais enfin surtout à ce moment-là. Et puis un racisme terrible. Et l'une des différences d'ailleurs avec la France, c'est que eux, ils sont italiens. Ils ont une citoyenneté italienne. Alors que pour les Français, enfin pour la fraction de la classe ouvrière jeune entre guillemets en France, ils sont immigrés. Donc ils n'ont pas le même sentiment ni la même légitimité à exprimer leur désespoir, tout simplement, quoi.
C'est juste un texte pour les persécutés, comme Persichetti. Europe de l'extradition, faut pas vers le fascisme franchi. Dans mon cœur, on veut la tête de Berlusconi. Refinir avec fini, on va faire que des bosses impossibles. Voir tout chalon dans la rue, pour foutre perpène au pilori. Et puis shooter des flashballs dans la tronche de Sarkozy. C'est juste une voix qui s'élève comme celle de Nanni Moretti. Rifondazione giovani comunisti. Siamo tutti brigate rosse. Et una lotta continua pour plus voir le fascisme ici. Et aujourd'hui, au milieu de gouvernement de droite, antichambre de l'extrême droite, et jeunet de gauche revient à vivre sous une matraque. Et l'un ou l'autre, c'est comme devenir une cible. Ou les serrer sous la bague. Je pense aussi à Beauvais, Hébert et à McKinney. Être un militant aujourd'hui devient dangereux dans ce pays. En Italie, c'est pourri. On tentait d'interdire des droits de grève. À Gênes, les carabinieri ont tabassé les notes sans trêve. Moi, cavaliere, ça me fait penser à Dulce. Les règles d'Europe comme alliés frappent les mouvements alternatifs. Les immigrés imposent le bipartisme. Une nouvelle dictature est née. La connerie anglo-américaine nous a contaminés. Donc je tiens aux persécutés, aux brigades rouges, à ceux qui risquent d'être extradés. De tout temps la révolution a fait peur aux gens. De tout temps la révolution a fait changer les gens. De tout temps réactionnaire a gagné la masse entière. Quand face aux révolutionnaires, envoyer son confort au cimetière. Je lance mes rimes comme un pavé dans la mare des déchus de 68. Que leur idéal révolutionnaire ont oublié bien vite. Qu'ils aillent réécrire leur couplet et arrêtent de dormir la foule avec des.
Vous êtes jeunes, mais comme moi, plus tard vous verrez.
C'est connards que j'aime les extrader en reniant leur passé. Cautionne aussi les lois racistes à l'achèvement parce qu'on devrait. Raffarin et ses CRS costumés. Moins la culture et plus à l'armée. De plus en plus à l'armée, ça me fait penser à quand Goebbels disait. Des mots synonymes, mais toujours à la même place qu'hier. Moins pour se connaître, toujours plus pour se faire la guerre. Il recommence la chasse aux sorcières. On ferme encore les anarchistes et perpétue la traque aux communistes. Ils lâchent leur vie dans les concerts et les espaces autogérés. Ce sera de l'autodéfense. Si on en vient à la lutte armée, la répression sera réprimée. La répression sera réprimée. Un bloc noir, c'est ceux qui ont fui le fascisme. Un bloc rouge, un bloc noir. Pour se rappeler après Florence en 2012. Un bloc noir. Pour les persécuter, emprisonner, pour leurs idées. Un bloc noir. Pour rendre à casse aux pertes, c'est des désobéissance civile. Désobéir est civil. Quand t'es mis en danger, la liberté de penser. Désobéissance civile. Car dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. Désobéissance civile, désobéir est civil. Quand t'es mis en danger, la liberté de penser. Désobéissance civile. Car dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais. C'est juste un texte pour les persécuter comme Persichetti.
Vengeance, vengeance pour toi.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et Vengeance, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est toujours avec Isabelle Sommier, on évoquait cette question de la violence révolutionnaire, de comment la qualifier et éventuellement de qui la qualifie. Peut-être que tu voulais poursuivre sur cette question-là.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme je le disais, bon, moi je fais beaucoup de parenthèses, hein, c'est mon côté un peu latin. Hein, l'un des moteurs de cette réflexion, ça a été donc la réflexion et la critique à l'égard du terme terrorisme. Hein, parce que on voit que le terme terrorisme est d'abord un stigmate, une labellisation pour rejeter, pour dénoncer une violence qui est considérée comme illégitime. Alors, je vais vous donner un exemple, ce qui est l'affaire Sofri. Sofri, qui est le leader de Lotta Continua. Lotta Continua a été considérée pendant des années, c'est une organisation italienne, hein, comme une organisation extra-parlementaire, entre guillemets, classique. Enfin, elle n'était pas interdite, etc. quoi. Et avec la dénonciation d'un repenti qui a dénoncé en Lotta Continua, donc en son leader, Sofri, la responsabilité du premier assassinat politique en Italie, en la personne d'un commissaire, hein, du commissaire Calabresi, eh bien, tout d'un coup, 20 ans après les faits, Lotta Continua, qui était considérée comme une organisation extra-parlementaire, légale, etc., est devenue une organisation terroriste. En d'autres termes, cet exemple montre que le terme terrorisme ne signifie rien, si ce n'est une désappropriation, et on peut évidemment, d'un point de vue moral, éthique, etc., être en désaccord avec tel ou tel groupe, mais c'est désapprécier le caractère politique de l'organisation en question. Et c'est pour ça que j'ai préféré, plutôt que parler de terrorisme, parce qu'il y a une charge qui, à mon avis, n'est pas compatible avec la démarche scientifique, quoi. Une charge donc de labellisation, de dénonciation, etc., de parler de violence révolutionnaire, quoi. Tous ces groupes ont en commun d'avoir pratiqué des modes de violence assez différents, je l'évoquais, peut-être qu'on on va y revenir, hein, dans un but qui était un but de renversement radical de l'ordre des choses. Mais de ce point de vue-là, la violence révolutionnaire n'est pas l'apanage de l'extrême gauche. L'extrême droite peut être aussi une force de révolutionnaire. Et d'ailleurs, on peut remarquer que les pays qui ont été les plus marqués par les dites années de plomb sont ceux où les groupes d'extrême droite révolutionnaires, avec l'objectif de renversement violent du pouvoir en place, ont été les plus actifs, quelquefois, et même souvent, avec la bienveillance et l'appui des pouvoirs en place. C'est le cas en Italie particulièrement, c'est le cas aussi au Japon, d'une certaine manière.
Tu veux dire par là que la radicalisation se nourrit aussi de la violence d'État
Très nettement. Dans tous les pays, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réflexion sur, d'un point de vue théorique, est-il légitime de passer à la violence ou pas, en raison, en quelque sorte, de l'irrigation des schèmes révolutionnaires marxistes classiques à ce moment-là. On fait la révolution, et la révolution, c'est pas un dîner de gala, donc ça passe par la violence. Bon. Donc ça, il n'y a pas de réflexion à ce moment-là sur, si on fait la révolution, il faudra passer par un acte violent et donc par du sang. Ça, il n'y en a pas. Hein. En revanche, dans tous les pays, le passage entre l'acceptation, je dirais, abstraite, théorique, du recours à la violence et la préparation pratique à la violence, et notamment par le fait de commencer à s'y préparer, même si ça ne va pas très loin. Par exemple, retrouver les armes, les fusils qui avaient été enterrés dans l'après-guerre quand les partis communistes français ou italiens avaient décidé que bon, bah, là, c'était fini la révolution et qu'il fallait rendre les armes. On sait très bien qu'il y a plein de partisans dans plusieurs pays hein, qui n'ont pas rendu les armes, qui les ont enfouies. Donc ne serait-ce que ça, se préparer à déterrer les armes en quelque sorte et éventuellement à faire un minimum de préparation physique à l'autodéfense, ben ça c'est précipité par quoi ? Et c'est le premier élément distinctif hein, qui va changer en quelque sorte les évolutions d'un pays à un autre, c'est la rencontre avec les forces répressives. Et plus la répression est forte, plus la préparation de l'extrême gauche est conséquente. Alors là encore, l'exemple le plus important, hein, c'est l'Italie, hein, où très certainement le fait qu'il y ait eu en décembre 69 des bombes hein, d'une part une répression quand même très violente hein, et puis d'autre part des bombes dont on sait en 69 hein, d'ores et déjà qu'elles ont été posée par l'extrême droite avec la bienveillance, voire la complicité d'une partie des services de l'État, eh bien, ça va précipiter, c'est l'événement de Piazza Fontana, ça va précipiter la préparation à la lutte armée. Parce que d'abord, la lutte armée, elle est envisagée d'abord comme une réaction à une réaction fasciste ou comme un moyen d'éviter un coup d'État. Donc la modalité d'abord de préparation à la lutte armée est une modalité défensive.
Guillaume.
Et à l'inverse, tu laissais entendre qu'en France, justement, si on a évité le passage à la violence armée pour certains groupes issus de 68, c'est précisément parce que tu remarquais l'habileté, en quelque sorte, de l'État français pour...
Ah oui, ouais. Absolument. Enfin, je veux dire, la filiation, moi je pense qu'il y a une filiation hein, entre Action Directe et 68, hein, et en général c'est une filiation qui est déniée. Et c'est facile de dénier cette filiation parce que le fait est qu'entre 68 et puis Action Directe, il y a au moins 10 ans. Hein, donc c'est plus facile encore de dénier cette filiation que de la dénier pour l'Allemagne, pour l'Italie, etc. Bon, cela étant, à mon sens, il y a une filiation, même si Action Directe ne procède que d'un filon des suites de la gauche prolétarienne, hein, d'une des expériences Mao de 68. Hein, puis après, il y a un autre filon qui est plutôt autonome et puis indépendantiste, etc. Mais enfin, très certainement que l'une des raisons qui évite à la France hein, de connaître le développement que connaît l'Italie hein, dans l'après 68 vient à l'extrême habilité du pouvoir politique de l'époque en France, à la fois du point de vue répressif, parce que bon, compte tenu quand même de l'ampleur hein, des désordres, des violences hein, que le pays connaît au mois de mai, juin 68, il y a quasiment pas de victimes. Et puis les victimes qui ont lieu, ils ont lieu dans la classe ouvrière. Hein, et comme on a une lecture très centrée sur mai 68, parisiens, étudiants, etc., bon, et compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les modes de radicalisation individuelle sont très liés au hasard, finalement. Hein, il n'y a pas de gêne. Personne n'est né avec un gène terroriste, etc. Il y a beaucoup de faits de hasard. Donc le fait que finalement la répression ait été très bien menée, extrêmement bien menée en 68, et que bon, il n'y a pas eu, par rapport à l'ampleur, hein, je dis pas bon, par rapport à l'ampleur des désordres, bon, tout s'est bien passé. Et d'autre part, Les réponses étatiques ont été très subtiles. Somme toute, on crée une fac, Vincennes, où les contestataires, ils vont pouvoir faire des cours de marxisme, des cours... Bon, on les ghettoïse, ils sont contents dans leur coin, etc. Donc tout va bien. D'une certaine manière, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, on offre aux contestataires un moyen de rejoindre la vie ordinaire, tout à fait classique. Et ça, on ne le retrouve pas ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Claire Lebon et je suis une ex-prisonnière d'Action Directe, libérée après 17 ans de prison, actuellement en suspension de peine.
Alors on va entendre un extrait, un son, c'est issu des rushs inédits d'un film qui a été fait il y a 3 ans de cela avec Joëlle Aubron, justement comme elle le disait alors qu'elle était libérée de prison pour raison de santé. Ce film s'appelle « Retour sur mon parcours militant » et Joëlle Aubron y raconte sa vie, son entrée dans Action Directe et puis le fonctionnement de cette organisation et puis la vie, les 20 ans de prison qui vont suivre. Extrait.
Un peu, on sait par exemple, il y a des choses qui d'abord qui paraissent, on est quand même hyper attentif à tout ce qui peut paraître dans la presse, on achète quasiment tous les quotidiens tous les jours, et dans ce cadre-là, c'est un exemple parce que on m'a assez reproché lors de l'action contre Georges Besse, le communiqué reprend l'expression « la brute baisse » et « la brute » est soigneusement entre guillemets, parce qu'en fait c'est quelque chose qui vient d'un tract syndical distribué par la CGT à la porte de l'usine, qui est dans le cadre de l'opération de restructuration activée par Besse à partir du moment où il vient à la tête de la régie Renault. Donc ça, on arrive à le savoir, mais il y a énormément d'efforts qui sont justement faits pour capter quand même des choses en dépit de ce qui est objectivement un isolement, parce que toutes les passerelles de médiation qu'on avait au préalable ont été coupées, quoi. Et c'est pour ça aussi, c'est de là aussi que vient cette impression, je veux dire, d'être sur une barricade qui est en train de se creuser, quoi.
Qu'est-ce que vous attendez quand vous décidez de faire l'opération Bess? Qu'est-ce que vous attendez en retour comme développement d'un mouvement populaire éventuel? Comment vous analysez les conséquences que peuvent déclencher l'opération Bess?
Bon, à ce moment-là, justement, là, on est vraiment sur le truc... c'est pas toujours les mêmes qui prennent, quoi. C'est aussi... on pense pas du tout, avec l'action contre Georges Best, relancer un mouvement social fort, Bon, on sait bien dans quel état, se situent aussi bien les luttes sociales en général... que celle au sein de la régie Renault en particulier. L'idée, c'est... c'est pas... c'est justement parce qu'il y a toute cette... c'est le matraquage, pour les prolétaires à l'époque, c'est vraiment un matraquage hyper intense. C'est un matraquage concret, parce que c'est quand même c'est des plans de licenciement qui se succèdent les uns après les autres, justement sur les entreprises du secteur public industriel, donc ça veut dire des trucs très gros, parce qu'il y a beaucoup de gens concernés. Je veux dire, Georges Besse, avant de foutre à la porte 25 000 à l'arrêt chez Renault, il en a foutu à la porte 34 000 chez Péchinet. Et parmi les 34 000 de Péchinet, il y en a deux qui sont suicidés, parce que c'est vraiment une pression. Mais en plus, c'est tout le discours le discours sur les perdants. C'est, quand on est chômeur, c'est de sa faute. Et ça, c'est un discours qui est toujours là aujourd'hui. Mais à l'époque, il arrive. Et en tout cas, quand j'étais dedans, quand je regardais ce discours qui continue d'exister, je le trouvais beaucoup moins agressif que dans ce milieu des années 80. Dans ce milieu des années 80, il est d'une... Même là encore, je m'en souviens comme d'une violence incroyable, d'un truc, mais destructeur. Je veux dire, c'est vraiment le moment où c'est le matraquage pour détruire toute conscience de classe. Cette impression, je veux dire, d'être sur une barricade qui est en train de se creuser, quoi.
Voilà quelques extraits de cet entretien avec Joël Aubron. Tout ça pour évoquer la situation du groupe Action Directe qui incarne en France le plus cette violence révolutionnaire de l'après 68. Isabelle Sommier, comment vous interprétez ça? On était en train d'en discuter avant cet extrait-là. Comment vous voyez, vous, l'évolution de ce groupe, finalement assez isolé sur ces questions-là?
D'abord, ce groupe émerge d'une façon très, comme je le disais tout à l'heure, avec une distance, de toute façon, assez considérable, et l'histoire l'a prouvé, d'une certaine manière incommensurable, avec l'état d'effervescence issu de 68. Avec plus de 10 ans de décalage, dans une période où déjà la conflictualité ouvrière est d'une manière, depuis déjà plusieurs années, Cédric le sait plus que moi, je pense, à Calais. Parce qu'en fait, les grandes grèves ouvrières, elles ne dépassent pas en France en 73. Et elles concernent essentiellement des OS immigrés. Sauf si je me trompe, Cédric.
Il y a un petit peu les grèves...
Attends, on va t'ouvrir ton micro, Cédric.
Il y a aussi comme l'exemple, le cas des grèves violentes de Longwy's dans la sidérurgie, qui sont une résurgence, mais défensive, pour le coup.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Une résurgence du combat.
Oui, Longwy's, c'est d'une certaine manière, c'est un peu facile de le dire avec beaucoup de distance, mais c'est déjà le champ du cygne, parce que Longwy's, c'est les dernières grèves contre les restructurations et déstructurations, d'ailleurs, ouvrière, et déjà, c'est une lutte exclusivement défensive, quoi. Alors que ce qui a marqué 68 et puis les années ultérieures, c'est, me semble-t-il, c'est la dimension offensive des choses, quoi. Donc de ce point de vue-là, Action Directe et le mouvement autonome, d'une part, viennent assez tardivement, et puis ils viennent d'une certaine manière, de façon, je parle pour le mouvement autonome, d'une façon un peu importée quand même, quoi. C'est-à-dire que il y a quand même l'influence essentielle du mouvement autonome italien, mais sans l'ancrage social en France qu'il y a dans le mouvement autonome italien, quoi.
Justement, parce qu'il y a une question, parce qu'on voit...
Donc
le...
c'est une lutte un peu désespérée, quoi, voilà, c'est ça, je veux dire.
On voit un peu l'extrême maigreur des troupes qu'il peut y avoir dans et autour d'Action Directe. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? J'imagine que dans tous les autres pays sur lesquels vous avez travaillé, la situation n'est pas comparable. Combien ils sont?
Non, ça ne veut rien dire. Enfin, je puis dire il n'y a pas de relation entre, il n'y a pas une relation directe entre le nombre des troupes, entre guillemets, des troupes militantes, hein, et l'effet que ça peut avoir. Je vous donne là aussi un exemple. Hein. Alors, il y a une particularité, je l'ai déjà dit, et c'est un autre élément de la particularité italienne, c'est l'importance du nombre de militants. Hein. Les Brigades Rouges, c'est 1 000 000 de militants. Prima Linea, qui est le deuxième groupe armé italien, c'est 900 militants. Et puis, il y en a des dizaines derrière. Hein. Enfin, au total, il y a 5 000 prisonniers politiques en Italie au début des années 80, hein, et 20 000 inculpés. Hein. Donc, c'est énorme. Et ça n'a rien à voir avec ni avec les Allemands, ni avec les Français, a fortiori, ni avec les Japonais. Parce que pour les Allemands, par exemple, on considère que sur toutes les années 70, hein, il y a eu tout au plus entre 50 et 100 militants, enfin actifs. Hein. Pour les Japonais, pareil, il n'y en a jamais eu plus de 10 par an. Compte tenu du burn-out, donc de l'épuisement militant, des arrestations, etc., il y a eu en tout et pour tout, là aussi, comme en Allemagne, hein, pour être généreux, si je puis dire, hein, une soixantaine de militants. Donc, c'est pas forcément le nombre qui fait la différence. Même si, évidemment, ça joue. Hein. Mais ce qui fait la différence, c'est ils sont, même s'ils sont très, très peu, mais très actifs, ils sont très actifs dans quelle période du cycle de protestation. Et la question française, c'est qu'ils sont très peu nombreux, mais ça, c'est pas particulier, hein. Par rapport aux Allemands ou aux Japonais, etc. Ils sont très peu nombreux, mais ils sont très peu nombreux quand le cycle de protestation est déjà terminé. C'est ça qui fait vraiment la différence.
On approche de la fin de cette émission. On voulait parler de ce qui s'est passé par la suite, de ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. On a évoqué le cas des militants d'Action Directe qui ont passé... plus de 20 ans en prison il y a une espèce de vengeance qui est de l'État, ou pas de vengeance, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu une répression lourde. Et en Italie, encore plus, où on voit qu'aujourd'hui, des gens comme Marina Petrella sont inculpés alors qu'elles avaient trouvé refuge en France. On peut évoquer les suites des suites de mai 68
En fait, il n'y a pas de suite, quoi. C'est ça qui est terrible, hein, c'est que y a un héritage qui ne passe pas, hein, et il y a une profonde aversion à penser ces années. Alors, l'un des signes de cette aversion à penser ces années, c'est justement dans la périodisation. Hein. Donc, on va célébrer, et on célèbre tout, enfin en France en tout cas, hein, tous les 10 ans, on célèbre mai 68. Alors, c'est le thème du déblocage de la société française. Et puis, on met en avant ceux qui ont bien réussi, etc. On occulte totalement les Katangais, les ouvriers qui sont passés par pertes et profits de ces années. Hein. Donc, par la périodisation, hein, on célèbre un mois, qui est un joli mois, et puis les autres, ils passent par pertes et profits, et non seulement ils passent par pertes et profits, mais il y a une justice sans fin, d'une certaine manière, hein, que ce soit en France, c'est pas pareil, ou en Italie, évidemment, hein, c'est pas pareil en Allemagne. Hein, en Allemagne, il y a eu une très grosse polémique, hein, sur la libération de la dernière responsable de la troisième génération de la fraction Armée Rouge, mais elle a été libérée, hein, in fine, quoi. Mais globalement, autant on célèbre mai, autant on occulte les années 70 et on poursuit effectivement la chasse à, la chasse aux terroristes. Quoi. Alors ça se passe de deux façons, hein. Soit comme c'est le cas en France, en Italie et puis en Allemagne, par la construction d'une mémoire officielle de 68, par les anciens leaders de 68 qui disent en gros, nous on a débloqué la société, on a libéré les mœurs, etc. Et puis les autres c'est des vilains, hein. Tony Negri il est dans cette position en Italie. Hein. Où ça se passe par l'occultation totale de ces années 70, c'est le Japon. Alors le Japon, on ne parle pas du tout des années 70. Quoi. Donc les armées rouges, elles sont hors de l'histoire. Et c'est deux façons finalement hein, d'occulter le passé, et de ne pas y revenir. Et puis on n'y revient pas historiquement, mais on poursuit la chasse judiciaire.
Et donc il y a cette question de faut-il verser ou parviendra-t-on à verser cette histoire-là dans celle du mouvement ouvrier finalement.
C'est un peu l'objectif que j'ai essayé de poursuivre hein, parce que 68 ça se résume pas à une révolte d'étudiants et puis pour comprendre les suites de 68 il faut relier non seulement 68 aux années ultérieures mais aussi relier la révolte étudiantine et la révolte ouvrière.
On recevait donc Isabelle Sommier, qu'on remercie, et qui vient de publier donc la violence révolutionnaire aux éditions de Sciences Po. Vous y retrouvez l'ensemble des propos qu'elle a développés aujourd'hui, avec beaucoup d'exemples qu'on a un peu oubliés sur la palette des différents modes d'action des groupes révolutionnaires, et aussi, elle rappelle des événements qui sont complètement méconnus au profit de quelques événements spectaculaires, d'enlèvements spectaculaires, et on a oublié toute la palette d'action de ces différents groupes révolutionnaires des années 70.
Un cocktail Molotov se fabrique de la façon suivante. Tu prends une bouteille en verre que tu remplis avec un liquide inflammable. Par exemple, de l'essence volée dans un réservoir de voiture. Il est indispensable d'y rajouter un peu de savon ou de l'huile pour rendre le liquide un peu plus gras. On peut également y rajouter quelques clous, quelques graviers pour rendre l'impact plus fort. Ensuite, on mélange le tout. Puis on prend un bout de chiffon que l'on trempe dans de l'essence et que l'on va fixer sur la bouteille avec un bouchon de liège. On met le feu au chiffon et puis on lance la bouteille vers la cible choisie. Quand la bouteille rencontrera la surface dure, elle explosera.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, un bassin d'élevage des surgeons révolutionnaires, et c'est quand même autre chose que RFI. Alors, ce soir, autour des micros, autour des boutons, pour réaliser cette émission, il y avait celui qui prépare ses cocktails Molotov en entendant fièrement tout le répertoire de Joli Môme, c'était Guillaume Yom. Lui, c'est le porridge, que dis-je, le maelstrom de la sociologie francophone, mélangeant les influences de Bourdieu, d'Étienne Dao, d'Ernest Mandel, de Garcimore, sans parler de l'irrigation des chaînes marxistes classiques. C'est donc Cédric. Celui qui rêve de brûler la voiture de tous les petits chefs particulièrement haïs de la radio bourgeoise, c'est le partageux Raphaël. Et puis ce soir, dans le rôle de la jeunesse ouvrière révoltée, on retrouvait Juliette, Jérémy et Hélène. Mais voici que sonnent les sirènes du port d'Alexandrie, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.